EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour à toutes. Alors, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine dans À table avec Annabelle. Et cette semaine, eh bien, nous allons recevoir trois femmes qui vont nous partager leur histoire. Des histoires à la fois difficiles, mais en même temps extrêmement inspirantes. Elles ont connu la guerre, elles ont connu la violence, la précarité, les drogues, les addictions, etc. Toutes sortes de choses difficiles dans un parcours de vie et quelquefois dès leur plus jeune âge. Mais toutes les trois ont un dénominateur commun. Elles se sont accrochées à Dieu et elles ont vu comment Dieu a été fidèle dans leur vie, comment Dieu a su leur donner du succès là où pourtant beaucoup de gens auraient pu dire il n'y a pas d'espoir pour cette vie, où leur vie va être très compliquée. Mais notre Dieu réécrit les histoires et notre Dieu a des projets de bonheur. Il en a aussi pour vous. Alors peut-être que vous avez eu un mauvais départ dans la vie, peut-être que vous vous dites mais moi la chance n'a pas été de mon côté. Alors je vous encourage à nous suivre toute la semaine, lundi, mercredi et vendredi pour entendre ces témoignages marquants, ces témoignages aussi qui je crois vont fortifier votre foi et que vous aussi eh bien vous allez saisir la main de Dieu et que vous allez saisir cette vague de foi qui je crois va être transmise à travers tous ces témoignages pour vous dire mais moi aussi je peux me relever, moi aussi je peux vivre cette vie même si ça a mal commencé. Alors aujourd'hui on va commencer ce début de semaine avec une femme, une très belle femme, vous allez le voir, qui est très heureuse d'être avec nous, Aurélie, n'est-ce pas?
Oui.
Oui, elle est très heureuse.
Trop belle et très heureuse.
Oh, un petit peu peur d'être avec nous. Et je vous présente Jeanne.
Merci beaucoup.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Annabelle. Bonjour Aurélie. Bonjour.
Alors, on est heureuse que tu sois là, Jeanne, pour nous partager un bout de ton parcours.
Et merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Je suis honorée en fait et très heureuse d'être en votre compagnie.
En plus, Jeanne, tu nous suis depuis longtemps. Hein, tu oui. suis les émissions EMCI TV depuis pas mal de temps. Je me souviens, on s'était rencontrés il y a pas mal de temps. Et puis, tu nous disais à quel point les émissions t'avaient béni. Eh bien, tu n'es pas la seule.
Non, vous bénissez beaucoup, beaucoup de personnes. Et vraiment, je suis reconnaissante d'être là parce que vous avez fait partie de ma vie depuis le commencement de EMCI. Je vous suis et je suis bénie au travers de toutes les émissions. Et vraiment, c'est une grâce pour moi que d'être là. Merci pour tout le travail que vous faites. C'est extraordinaire. Ça touche des vies.
Et donc, on dirait que j'ai forcé le compliment. Là, je voulais dire que tu n'es pas la seule parce que je voulais vous partager aussi un témoignage, Aurélie et Jeanne, et vous tous qui nous suivez, d'une femme qui s'appelle Sarah et qui a été guérie au cours de l'un de nos programmes. Il y a eu un temps où des paroles ont été relâchées. Elle a été guérie d'une scoliose et elle a senti dans son dos une chaleur. Et puis elle a senti son dos se redresser. Elle a été entièrement guérie. Amen. Et on dit merci Seigneur pour ce genre de guérison surnaturelle parce que c'est des choses qui sont douloureuses dans le corps et puis qui pénalisent le quotidien, etc. Puis en un instant, Dieu vient toucher le corps d'une personne et on tient particulièrement à dire merci à vous tous, nos partenaires qui nous permettaient de faire tous ces programmes, que ce soit les programmes réguliers de la chaîne, mais aussi tous les lives de guérison. Oui. Les Nuits de la Percée, tous ces programmes où il se passe la Semaine des Miracles, beaucoup de témoignages aussi. Alors un grand merci à vous tous, la famille des partenaires. Nous vous aimons et nous vous remercions de participer avec nous dans cette grande aventure. Et vous avez béni Jeanne, donc voilà, on peut mettre un visage sur une personne qui a été bénie depuis plusieurs années par les émissions.
Oui, je peux témoigner, vraiment, vous êtes une bénédiction pour la francophonie et même au-delà en fait. Et le Seigneur continuera à faire de belles choses avec EMCI, je le pense. Et voilà, continuez tout ce que vous faites.
Amen. Écoute, on pourra passer des émissions comme ça. Mais ceci dit, Jeanne, tu es venue nous raconter donc un bout de ton parcours.
Oui.
Parce que tu as une enfance assez atypique. Et on va le découvrir. Une enfance atypique qui a été marquée par la guerre. Oui. Et qui a occasionné du coup des déplacements, qui a occasionné beaucoup de déplacements aussi. Et donc, tu vas nous raconter ça.
Oui. Donc, je suis née au Rwanda, dans une fratrie de trois. Donc, j'ai un grand frère et un petit frère. Mais juste avant de raconter comment ça s'est passé pendant la guerre, j'aimerais mettre un petit contexte familial. Donc, mes parents, quand ils se sont mariés, ils ont fait un voyage et vous connaissez le Rwanda. En fait, le Rwanda, c'est le pays des mille collines. Il y a beaucoup de collines. Et donc, mes parents, ils ont fait un voyage en autobus. Et dans cet autobus, malheureusement, il y a eu un accident mortel. Mmh. Ce qui fait que l'autobus est vraiment tombé dans le ravin. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui décèdent. Mon papa, il est touché gravement. Ma maman, elle s'en sort indemne.
Touché physiquement ?
Physiquement, okay, donc, ouais. Au niveau de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Il est opéré, mais les médecins lui disent « vous ne pourrez plus marcher, vous ne pouvez pas avoir d'enfant ». Vraiment, c'est l'hécatombe parce que lui, c'était un grand sportif, etc. Donc, ça commence mal, mais on va voir qu'au travers de mon histoire, en fait, le diable a essayé de vraiment stopper même nos naissances, mais aussi au-delà. Et donc là, mon papa, miraculeusement, plus tard, il a été guéri.
Oh,
donc,
wow.
Voilà, je résume un peu l'histoire.
Oui.
Mais aussi, autre chose, dans mon enfance, juste avant la guerre, etc., j'avais 4 ans, je suis tombée gravement malade. Donc, j'ai eu la pneumonie et j'ai été hospitalisée plusieurs jours. Et puis, j'ai été à l'hôpital et puis ils m'ont déplacée dans un autre hôpital pour qu'ils prennent bien soin de moi. Mais j'ai été déclarée morte.
À ce moment, déclarée morte.
Oui. Oh. À ce moment-là, mes parents, en fait, ne croyaient pas en Dieu, mais le Seigneur a utilisé des connaissances, des personnes qui ont pu prier pour moi, ne connaissant même pas la situation. Et puis, miraculeusement, les médecins m'ont vu revenir à la vie. Et donc, une fois de plus, c'était une victoire.
Oui.
Mais mes parents, toujours à ce moment-là, ils ne croyaient pas encore en Dieu. Mais en 1993 ou 93, mes parents ont accepté le Seigneur dans leur vie et puis ils ont donné leur vie au Seigneur et ça c'était déterminant pour la suite de notre histoire. Parce qu'en 1994, il y a eu donc la guerre et on a dû quitter le Rwanda. Avant ça, mes parents, ils avaient les moyens, ils travaillaient tous les deux. J'ai vécu vraiment dans une bonne situation quand j'étais jeune au Rwanda. Et puis là, quand arrive la guerre, on quitte le Rwanda, on quitte tout. On part vraiment sans rien. On part, ne sachant pas où aller, mais on doit partir. Et on arrive au Congo. Et arriver au Congo, c'était vraiment une situation terrible. On dort à même le sol, on dort dehors à la belle étoile. On a des matelas. Et au fur et à mesure, on arrive quand même à avoir une tente. Oui, un toit. Mais c'était une tente, en fait. On n'avait pas de maison, on vivait dans une tente. C'était des conditions terribles. Vous imaginez, en pleine guerre, on n'a rien. Et donc là, c'est...
Toi, tu t'en rappelles vraiment, quoi. Alors que tu étais toute petite et tout, qu'est-ce qui ressortait de cette période-là pour toi?
Oui, je me rappelle, c'est une très bonne question Aurélie, parce qu'en fait moi, à ce moment-là, comme je vis des choses traumatisantes, je pense que ma mémoire c'est comme figée, je me souviens de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je peux raconter vraiment, parce que ma mémoire à ce moment-là, vraiment je revois tout. C'est une détresse, parce que c'est comme si mon enfance est volée. On vit des choses, on devient tout d'un coup adulte quelque part, parce qu'on voit des situations terrifiantes, on vit des choses horribles. Et je me souviens vraiment d'avoir peur, de ne pas vraiment dormir la nuit, d'avoir des tremblements. Vraiment, c'était terrible. Mais on restait soudés, mes parents ils nous parlaient de Dieu à ce moment-là, c'était... voilà, dans notre détresse, on restait soudés en famille, voilà, avec mes frères et ma maman et mon papa et d'autres personnes avec qui on vivait dans ces tentes.
Ok, d'accord.
Oui.
Et donc là, alors que vous êtes encore au Congo, arrive une autre tragédie qui vient secouer finalement, qui vient secouer votre équilibre, l'équilibre que vous aviez trouvé.
Absolument. Donc à ce moment-là, on est certes dans la détresse, même pour manger, c'est des miracles. En fait, c'est un miracle même pour trouver à manger. Mais à ce moment-là, il y a un fait vraiment un choc. Ma maman, elle décède. Il faut savoir que ma maman, elle est tombée malade d'une maladie qui est, on va dire aujourd'hui, presque banale parce qu'on peut la soigner. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de soins médicaux et on est livré à nous-mêmes. Elle est partie à l'hôpital, certes, mais ils n'ont pas pu la sauver. Donc là, elle décède.
Et tu as quel âge ?
À ce moment-là, j'ai 6 ans, quelque part par là, 6 ans, 7 ans. Oui.
Et tu comprends ce qui se passe ?
Oui, parce que j'ai vu les gens tout autour de nous s'effondrer, pleurer vraiment... vraiment s'effondrer. Et donc là, je comprends, quelques tantes avec qui on était, oncle, je comprends la gravité de la chose, mais à comprendre qu'elle ne reviendra plus jamais, ça je ne dirais pas. Mais ce qui a déterminé la suite, c'est que mon papa, il nous a appelés, mes frères et moi, Et il nous a fait asseoir, il nous a parlé avec des mots que les enfants peuvent comprendre, en nous disant, bah, votre maman, comme elle a donné sa vie au Seigneur, elle est auprès de Dieu.
Oh, ouais.
Elle est auprès de Dieu, et donc on a l'espoir qu'on la reverra un jour. Ça, vraiment, je me souviens qu'on a l'espoir qu'un jour on la reverra, et ça nous réconforte. Et le fait que mon papa, il est resté fort, c'était un homme de foi, on l'a vu vraiment rester fort pour nous et nous encourager aussi à toujours fixer nos regards sur Dieu et que Dieu nous veut du bien, malgré que notre maman était partie, mais que Dieu, c'est un père qui nous aime, c'est le père des orphelins. Il a introduit cette notion que Dieu va prendre soin de nous, qu'on ne doit pas s'inquiéter. Et donc, vraiment, je me souviens qu'en voyant mon papa comme ça, ça ne m'a pas trop... ça m'a pas chamboulé.
Ça va bien aller.
Oui,
si lui tient le coup, absolument. Ça va bien aller pour
nous. Wow. Tu te sens un peu rassurée comme ça.
Et donc, vous restez combien de temps au Congo?
On reste là un an et demi. On n'est pas scolarisé, on est livré à nous-mêmes, toujours dans ces conditions terribles. Et puis, à un moment donné, on reçoit une aide d'une missionnaire, vraiment, qui nous a aidés. On a pu quitter le Congo pour aller au Kenya.
Au Kenya.
Voilà. Donc, arrivé au Kenya, on n'a toujours rien dans nos bagages parce qu'on est parti sans rien. On a vécu vraiment par la foi.
Des nomades.
Par la foi, exactement. On ne savait pas où aller, on n'avait pas quelqu'un qui nous attendait de l'autre côté, en fait, de l'aéroport.
Mais du coup, quand tu dis on n'avait rien et personne ne nous attendait, tu arrives au Kenya.
Oui, avec un petit bagage.
Et là,
deux, trois vêtements.
Tu es livré à toi-même.
Absolument.
Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas d'adresse, tu n'as pas de.
Non.
Tu es dans un nouveau pays.
Exactement.
Et ton père, il est là avec des enfants.
Oui.
Il se débrouille.
Il se débrouille. Il y a deux, trois personnes qui entrent en contact avec lui, avec qui il a parlé, qui ont su nous recueillir chez eux. Donc, on a vécu comme ça. Et puis, plus tard, il fallait quand même quitter et trouver une maison, ou trouver un endroit pour vivre. Et je me rappelle qu'au Kenya, vraiment, c'est le pays de la survie. Parce que on a vécu dans des conditions quand même terribles. La première maison qu'on avait eue, c'était une maison en terre. Et qui dit maison de terre dit les fourmis. Donc pendant la nuit qu'on dormait, les fourmis rouges nous mordaient. Oh. On n'avait pas de lumière, donc on devait allumer la petite lampe à pétrole. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Moi, je vois pas de notre époque. Ce que c'est.
Non.
Ouais, avec le verre qu'on tient là.
Absolument.
Avec, ouais.
Oui. Donc on devait allumer ça la nuit pour pouvoir. Quand on allumait la lumière, on voyait des fourmis. Mais ça venait tous les soirs. C'était terrible. Une autre maison qu'on a pu avoir, c'était une maison en fer, en métal. Mm-hmm. Voilà. Et quand on touchait sur le mur...
C'était bouillant.
Tu te fais électrocuter. T'as les mains mouillées. Ah oui. C'était vraiment des conditions effroyables. Et puis, on voit d'autres enfants aller à l'école. Et nous, on n'avait pas cette opportunité-là d'être scolarisés au final. Mais c'est vrai que quand on avait... un peu de lueur d'espoir. Par exemple, quand quelqu'un nous invitait pour nous inscrire dans une école, on commençait un petit peu à aller à l'école et puis, de nouveau, il fallait quitter parce qu'il fallait encore chercher un endroit pour aller, pour survivre.
Mm-hmm. Donc, est-ce que du coup, vous faisiez un peu d'école avec ton papa ou pas du tout?
Ce qu'on faisait, c'est surtout la lecture de la parole de Dieu.
Ah,
okay. Ah oui, c'est ça.
Et vraiment appris à lire, à écrire avec la parole de Dieu, du coup.
Oui, et surtout à lire, mais je dirais pas que je lisais vraiment correctement, parce que là, j'ai appris vraiment quand on est arrivé plus tard en Europe.
Ok, d'accord.
Oui. On est resté plus ou moins 4-5 ans sans vraiment de scolarité.
Et là, ça ressemblait un peu à quoi, vos journées, à toi et tes frères et ton père, sachant que vous n'allez pas à l'école, vous ne faites pas partie de la société avec des papiers, des machins, etc. Du coup, qu'est-ce que vous faites?
On jouait entre nous, hein. Mes frères et moi, on jouait, on restait entre nous, on jouait. Et puis je me rappelle qu'on chantait beaucoup aussi, hein. On chantait beaucoup entre nous, comme une petite chorale à trois. Et on était vraiment, ça nous a soudés, hein, cette histoire-là. Ça nous a vraiment soudés avec mes frères et mon papa, quelques tantes avec qui on était aussi, et un oncle. Et c'était des moments où on passait vraiment à crier à Dieu, finalement, à crier à Dieu et à s'attendre à lui.
Est-ce que tu étais consciente de la gravité de la situation ou alors en tant qu'enfant, t'étais juste dans ton monde d'enfant?
Je pense que mon papa nous a préservé de certaines réalités quand même. Parce que je dirais pas que j'étais consciente de tout ce qui se passait. Il y a des jours où il savait pas ce qu'on allait manger le lendemain ou le surlendemain, mais il nous en parlait pas. Ils essayaient de trouver, d'aller chercher vraiment quelque chose pour nous mettre à table. Mais donc, on a quand même été préservés quelque part. Mais la réalité était là, c'est qu'on vivait dans des conditions terribles. On dormait parfois même le sol, on mettait des vêtements par terre ou seulement des matelas. Et voilà, donc c'était, j'étais quand même consciente de ce que je voyais, mais à certaines réalités non plus que je n'étais pas consciente parce que notre papa nous a quand même préservé quelque part.
Et quand vous étiez dans, par exemple, la maison où il y avait plein de fourmis, oui. Est-ce que vous étiez reconnaissant d'avoir un toit ?
Ah oui, parce que c'est ça aussi, c'est qu'on devait toujours remercier Dieu pour tout ce qu'on avait. Je n'ai jamais vu mon papa se plaindre. Mmh. Jamais. Wow. C'était une figure vraiment, enfin, deux fois, vraiment. Et je ne l'ai jamais vu se plaindre. Toujours aussi, et chercher à aider les autres. C'est ça que voilà. Quand il voyait quelqu'un dans le besoin aussi, alors que nous, on dirait qu'on était vraiment au pire du pire, mais lui, il voyait quelqu'un qui était encore dans la nécessité et il faisait tout pour l'aider. Et donc, C'était ça notre vie.
Ok. D'accord. Et est-ce que tu penses à ta maman à ce moment-là, pendant les années passent et avancent ?
Bien sûr. Mmh. Chose qui m'a vraiment marquée quand on est arrivé au Kenya, c'est que quand on est parti dans la famille qui nous a recueillis, la maman, elle m'avait fait un petit cadeau. Et donc j'ouvre, là c'était des vêtements. Waouh. Et là je me dis, mais elle pense à moi. Elle a même pas. Elle a vraiment pris soin de me donner ça. Et là je me dis, waouh, c'est ça une mère en fait. Mmh. Pour moi, j'avais plus cette notion-là et ça m'a vraiment touchée. Mmh. Et c'est là où tu sens que ben voilà, l'absence de ta maman, elle se fait sentir. Donc il y a des moments comme ça où j'ai vraiment senti l'absence de ma maman.
Okay.
Ouais.
Et après, vous restez combien de temps au Kenya ?
Un an aussi, ou un an et demi, quelque chose comme ça.
Et là, après, vous partez encore une nouvelle fois ?
Oui, bien sûr. On a souvent voyagé en cherchant la stabilité économique. Mmh. Et politique. Donc, on a quitté pour aller dans un pays qui s'appelle le Swaziland. Mmh. Le Swaziland, c'est un pays qui est méconnu. Il s'appelle maintenant, il a changé de nom, c'est Eswatini. C'est un petit pays en Afrique du Sud. Et donc là, autant que le Kenya, c'était notre survie, maintenant, au Swaziland, c'était le désert. Mmh. Je dirais le désert, comme le peuple d'Israël qui était dans le désert et que Dieu faisait des miracles au jour le jour et qu'ils ont survécu par la grâce de Dieu. Le Swaziland, pour nous, c'est notre désert, en fait. Mmh. D'un côté, il y a vraiment la souffrance terrible, mais de l'autre côté, il y a la main de Dieu. Mm-hmm. On a vécu des miracles incroyables. On arrive dans ce pays, on ne parle pas la langue. Le peu d'anglais qu'on pouvait parler, enfin que mon papa il pouvait parler, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. Donc, on arrive dans ce pays où on est livré à nous-mêmes. On est presque...
Encore une fois, vous arrivez dans un pays... Livré à vous-même.
Livré à nous-mêmes.
Ok.
Et donc là, c'est la survie parce qu'on n'avait même pas les moyens pour acheter à manger. Donc là, c'était la famine en fait.
Et là, t'as grandi aussi quand même. Ouais. Là, t'as à quel âge ?
Oui, là, j'ai 8 ans. Parce que là, on est resté encore peut-être un an. Oui, je suis encore petite. Et j'ai un frère qui a un an de moins et un frère qui a un an de plus à ce moment-là. Oui, on est vraiment...
Ah, donc vous êtes vraiment tous très jeunes, en fait,
absolument.
À ce moment-là.
Ah, oui.
Ok,
oui, oui.
Moi, je sais pas, je pensais que ton frère, peut-être, était plus âgé.
Non, on a un an, mon grand frère et puis mon petit frère, un an et demi.
Il y avait d'autres enfants avec vous aussi ?
Non.
Ok, vous étiez les seuls enfants ?
Oui.
Les trois mousquetaires.
Oui, c'est ça. Oui, mais après, quand on était dans des familles, c'est sûr qu'on voyait d'autres enfants, etc. Mais nous, on était vraiment entre nous. Et donc, au Swaziland, c'est une petite anecdote, on priait pour vraiment avoir à manger. Et puis, on était dans un petit motel. L'argent pour subvenir à ces besoins-là, pour avoir un toit, c'est les missionnaires. Il y a deux missionnaires qui nous ont aidés, essentiellement qui nous ont aidés. Une qui était en Angleterre et une qui était en Belgique. Et vraiment, le Seigneur est bon parce que les personnes qui aident, qui appliquent la parole de Dieu pour aider l'orphelin, le veuf, Dieu... les bénis. Et ces personnes-là, vraiment, ont semé dans notre vie quelque chose qui a fait que plus tard, nous aussi, on a eu envie d'aider des personnes. Et c'était incroyable. Donc, ces gens-là, ils nous ont aidés à trouver un petit motel. On était dans ce petit motel-là et on avait vraiment faim. Donc, pour manger, pour boire, on devait se débrouiller. Et donc là, je me rappelle, on prenait des verres, on allait prendre l'eau du robinet dans la baignoire pour pouvoir boire de l'eau chaude. Mmh. Et la dame qui faisait l'entretien de l'hôtel, elle nous amenait parfois du pain que les gens n'avaient pas consommé et puis on le consommait. Et dans ce motel-là, on était vraiment couverts de plaies, c'était incroyable. Parce qu'on était
dans... manque d'hygiène ou...
Manque d'hygiène, mais en même temps, carence nutritionnelle. On mangeait pas, un autre fois, on mangeait surtout pas équilibré, on avait vraiment rien. Et donc là, on avait des plaies sur nous. Je me rappelle que j'arrivais même plus à marcher à un moment donné, tellement qu'on était atteint au niveau physique. Et c'était terrible à ce moment-là. Mais on était aussi surinfectés. Mais Dieu nous a guéris miraculeusement. On avait besoin de soins médicaux, mais sans médecin, sans personne. Dieu nous a guéris miraculeusement. Il a envoyé des personnes pendant qu'on priait pour avoir à manger. Les gens, ils viennent toquer. voilà, on vous apporte à manger. Le gérant du motel, il a eu pitié de nous. Et il veut, mon papa, il dit, donne ça à tes enfants. Dieu nous a vraiment soutenus. Mmh. C'est vraiment le père des orphelins. Mmh. Là, on l'a vécu. C'est incroyable, l'amour de Dieu. C'est,
mmh. Et ça a c'est duré puissant. Combien de temps, cette période-là, où vous avez vécu comme ça?
Ça a duré plusieurs mois. Et même qu'à un moment donné, quand on est sorti du motel, parce qu'on ne savait plus payer, en fait, on ne savait pas où aller. La police nous a recueillis et nous a emmenés en prison.
Oh.
Voilà, à cet âge-là, vous imaginez, aller en prison à cet âge-là, c'est quand même un choc. Et donc là, mais je me rappelle une fois de plus dans cette situation très compliquée et très qui est anormale, je vois mon papa en train d'évangéliser dans cette prison, qui dans des conditions mais terribles. On dormait à même le sol, il y avait un petit banc pour s'asseoir, mais c'était terrible. Et là, on avait faim en plus, on n'avait rien à manger dans cette prison. Mais Dieu nous sort de là encore une fois. La main de Dieu, on voit encore la main de Dieu à ce moment-là, et Dieu nous tire de là d'une manière surnaturelle. En fait, quand on parle de ces histoires avec mon papa, on se dit, mais on regarde en arrière, on se dit, mais comment on a fait pour sortir de là? Parce que même les aides financières qu'on recevait, ce n'était pas énorme. C'est comme le peuple d'Israël qui est sorti en fait d'Égypte et que le pharaon les a poursuivis. Quand la mer Rouge s'est ouverte devant eux, qu'ils ont traversé. Je suis sûre que quand ils sont retournés derrière leurs yeux derrière pour voir que le pharaon et toute son armée étaient complètement engloutis, ils se sont dit, mais comment est-ce possible? Ils ont vécu le miracle, mais en arrivant derrière, tu loues le Seigneur parce que c'était un miracle en fait. C'est ce qui s'est passé avec nous. Quand on retourne nos yeux en arrière, on se dit, mais comment on a survécu dans tous ces pays? Mais c'est la main de Dieu en fait. Il nous apporte.
Et là, avec du recul, est-ce que ton père, après, t'a dit comment lui, peut-être, il a vécu les choses quand il vous voyait avoir faim, il vous voyait avec ses plaies, partir en prison, etc. Est-ce qu'il t'a raconté depuis?
Oui, parce qu'on lui demandait, mais comment est-ce que tu as pu tenir? Il a dit lui-même, il ne sait pas, c'est Dieu. Parce que quand ma maman est décédée, personne n'aurait parié sur nous, parce que mon papa, à ce moment-là, il boitait encore, avec trois enfants.
Il a été guéri pendant...
Quand on est arrivé en Europe, c'est vraiment là où il a
parce que là, pendant tout ce moment-là,
il était en béquille.
Kenya.
Oui.
Et Swaziland, il est en béquille.
Absolument.
Incroyable.
C'est là où tu vois le miracle. Personne n'aurait parié sur notre famille, en fait. Ils s'attendaient qu'après la mort de ma maman, ben, on allait tous mourir l'un après l'autre, en fait. Mais miraculeusement, le Seigneur a été avec nous et il avait un plan pour nous.
Et ton père?
Si, Seigneur.
Ah oui, tu as dit qu'il, pour lui, c'est juste, c'est le Seigneur. Et toi, et ses émotions à ce moment-là, je ne sais pas.
Ses émotions, à ce moment-là, il ne les a pas trop communiquées. Mais ce que vraiment ce que je loue et que je remercie Dieu, c'est que mon papa était toujours comme un ami pour nous, en fait. Il s'est assis avec nous, on l'a vu être un modèle. Parce que c'est bien de dire aux enfants, voilà, il faut croire en Dieu, etc. Mais il a été un modèle pour nous. On a vu comment il s'est comporté. Certes, peut-être qu'il avait des émotions qu'il ne nous a pas montrées. Oui, c'est sûr qu'il avait une souffrance.
Oui.
Tu perds toute ta femme, tu perds tout, tu perds ton travail, tu quittes ton pays avec une petite valise, alors que tu avais les moyens. Tu arrives, tu es en train d'errer, tu ne vois pas le bout, mais il avait confiance. Et puis surtout, il avait aussi reçu des promesses de Dieu. C'est sur ça qu'il s'appuyait. Parce qu'effectivement, Dieu lui disait, tu peux quitter ce pays pour aller dans un autre pays. C'est ça. Il nous a vraiment dit ça, qu'il avait des promesses et Dieu lui avait montré où il voulait l'emmener.
Et est-ce que toi et tes frères, est-ce que vous gardez des souvenirs heureux de ces années?
Complètement. Absolument. C'est comme quelque chose qui est doux, mais en même temps amer, c'est ça. Parce que... À ce moment-là, parfois, on avait aussi des petits jeux entre nous, on rigolait entre nous. On avait des petites anecdotes entre frères et sœurs. Et c'est vrai qu'on se souvient de ça. Parfois, on rigole parce que, on a vécu des choses quand même terribles. On se dit, tu te rappelles qu'on était à l'hôtel, au petit motel et que telle personne est venue. C'était vraiment, on rêvait parfois qu'on avait un frigo. On se souvient qu'on mangeait du poulet. On rêvait des choses vraiment, on se disait, mais qu'on avait une télé ou quoi. On rêvait des choses. Et puis on se souvient, on rigole vraiment de cette époque là mais en même temps c'est une époque qui nous a appris à prier. On a vraiment appris à prier, à dépendre de Dieu. On a développé notre foi à ce moment là et ça, c'est inestimable.
Il n'y a pas eu des moments, même c'est vrai que tu étais jeune, mais il n'y a pas eu des moments où t'as douté de Dieu?
Douter de Dieu, c'est au moment où j'ai remis peut-être ma foi en question, c'est quand je suis arrivée en Belgique et que je voyais d'autres enfants avec leur papa, leur maman, la fête des mères, etc. Là, oui, le deuil de ma maman voilà, faisait un peu surface. Et là, je me suis sentie un peu, voilà, j'ai pas encore totalement fait le deuil. Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi parce que là, ça vers mon adolescence, oui, je me suis vraiment posé des questions. Ça, c'est
et
vrai.
Du coup, le passage de cette période-là, vous êtes au Kenya.
Oui.
Après, c'est quoi? C'est la Belgique?
Non, Swaziland.
Le Swaziland?
Oui.
Combien de temps là-bas?
Swaziland, bah, du coup, un an et demi. En fait, à chaque fois, on faisait des mois, plusieurs mois.
Ok. Oui. Et du Swaziland, qu'est-ce qui se passe, en fait, pour que vous vous retrouviez en Belgique?
Donc, il y a une des missionnaires dont je parlais et qui était du coup en Belgique. Okay. Elle nous a aidés justement à pouvoir aller jusqu'en Belgique.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'on est arrivé en Belgique.
Ok. Oui. Et est-ce que ça change?
Bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Mais, déjà, j'arrive, je n'étais pas du tout scolarisée. Je ne savais peut-être presque pas lire ni écrire.
Là, tu arrives à quel âge en Belgique?
10 ans, 11 ans.
Ah ok, donc là, t'as quand même un peu grandi, mais tes frères aussi, pas scolarisés, donc...
Oui. Okay. Mais je suis arrivée qu'avec un frère, l'autre est venu plus tard.
D'accord.
Oui, okay. Parce qu'il fallait les moyens, donc on venait au compte-goutte, on va dire. Mais arrivée là, on se pose un peu, mais on est encore dans l'attente, est-ce qu'on va encore partir? Parce qu'on a vécu tout ça, c'est traumatisant, en toutes ces années-là, on n'avait pas de stabilité, donc on est encore un peu... Est-ce que... Voilà, donc on se pose... Et puis là, il y a le contre-coup qui vient. Donc, c'est ça, vers l'adolescence, on se pose des questions. Mais une fois de plus, voilà, le Seigneur répond à nos questions. Et c'est un moment que j'ai pris de trois jours de jeûne et prière, justement, avec mon mari. C'était vraiment le moment clé où Dieu m'a transformée, comme transformer mon caractère, où j'ai aussi fait le deuil complet de ma maman. Je me suis dit, OK, elle ne reviendra pas. Et puis, à ce moment-là, je pouvais parler d'elle sans vraiment avoir d'émotions débordantes, sans pleurer, parce qu'avant, c'était presque impossible de penser à elle ou de parler d'elle sans vraiment avoir de détresse. Et à ce moment-là, Dieu me donne sa paix, et puis il me dit, ben voilà, je suis ton père, en fait, et j'ai toujours été là, et même si je le savais, mais là, je le comprends, et je le vis, et c'est un miracle. Et après ces trois jours de jeûne et prière, je suis une nouvelle personne. Je m'engage à servir le Seigneur, même si je le servais avant, mais là, c'est vraiment de tout mon cœur.
Et quel âge? 16 ans?
Vers 16 ans, okay. Oui.
Mais du coup, là...
Entre-temps.
Ouais, les 10-16 ans. Les 10-16 ans, Jeanne.
Les 10-16 ans, oui.
C'est passionnant, ton histoire.
Ouais, les 10-16 ans, parce que tu vois, t'arrives en Belgique.
Tu sais pas écrire.
Oui, absolument. Donc, au niveau de la scolarité... là encore, c'est Dieu qui a fait un miracle, qui m'a fait aimer l'école. J'arrive, les autres, ils savent écrire, ils savent lire. Mais moi, en fait, on me fait sauter des classes parce que ben, je peux pas non plus aller en première année alors que j'ai 10 ans, 11 ans. Et très rapidement, je comprends que je suis en retard et que je dois vraiment apprendre à lire et à écrire. Je me mets à aller à la bibliothèque tous les jours, tout le temps. Je lis, je dévore des livres, je fais tout pour pouvoir réussir. Mais en même temps, c'était aussi l'éducation que mon papa nous avait donnée. Mais c'est Dieu qui l'a fait, parce que par ma propre force, je ne serais pas y arrivée. Par ma propre force.
Et tu récupères le retard?
Je récupère le retard.
En combien de temps?
En une année, en fait. Mon bulletin de la fin d'année était vraiment rapide. Oui. Mais ça, c'est ça aussi les miracles. C'est ce que Dieu fait. Ouais. Donc toute personne qui a des problèmes de scolarité, même qui a eu des problèmes pour s'intégrer dans l'école, il faut pas rester dans le désespoir. Dieu peut restaurer en fait toute situation, même la scolarité. Personne n'aurait parié sur nous en fait, mais Dieu nous a restaurés au niveau scolaire et on a pu étudier.
T'as même fait des études supérieures après.
Oui.
Et t'es partie dans le domaine de la recherche scientifique.
Oui, ça
tant qu'à faire.
C'est plus tard. J'ai travaillé à l'hôpital et puis ensuite j'ai travaillé dans la recherche clinique, effectivement.
Et je reviens encore comme Aurélie. Quand vous êtes arrivée en Belgique, vous êtes arrivée. Est-ce que vous aviez un logement? Est-ce que vous êtes allée dans un centre?
On a été dans un centre.
Ok.
On commençait un centre où ils nous ont recueillis. Et après, par la suite, on a pu avoir un logement, mais ils nous ont vraiment pris en charge d'une manière optimale.
Et tu comprenais que là, Yev, on va rester ici.
C'est stable par rapport à ce que...
Je pense que... Je ne me posais pas ces questions-là, mais je voyais quand même qu'il y avait une lueur d'espoir. Quand je suis arrivée et qu'on a vu des personnes, par exemple la missionnaire qui vivait ici, qui vivait en Belgique, quand on est arrivée là, c'était comme si... un poids qui s'enlève, quand on l'a vu vraiment venir nous prendre dans ce centre-là dans lequel on vivait, waouh, c'était quand même un soulagement. Hein. C'était un soulagement. Mais est-ce que j'étais vraiment consciente de tout ce qui se passait? Parce que plus tard, je pensais qu'on allait encore partir, vous voyez, parce qu'il y a toujours le passé qui refait surface, en fait, à ce moment-là.
Et tu disais aussi qu'au niveau de la crainte, au niveau des peurs, jusqu'à ce que tu fasses ces 3 jours de jeûne et prière, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 jours.
Absolument.
Tu avais encore des craintes par rapport à la nuit, au noir plutôt.
Oui, c'est vrai que j'ai longtemps eu peur du noir en fait la nuit, parce que j'avais tellement vu des choses horribles durant toutes ces années, surtout pendant la guerre, que la nuit j'avais du mal en fait à éteindre la lumière. Parce que bah, ça refaisait surface, j'avais des pensées par rapport à ça. Et Dieu m'a libérée complètement de ça. Donc, oui. Merci Seigneur. Hein. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand tu traverses toutes ces années de souffrance, de pouvoir te dire, ok, là c'est fini. Voilà. Donc il y a toujours un peu ces petites choses qui reviennent, qui te rappellent la guerre, et même pendant la nuit surtout, et surtout le diable qui essaie de te faire te dire ok, voilà, tu n'as pas été tu t'en es sorti, mais il y a encore ça, et ça vient dans tes pensées, mais le Seigneur m'a délivré de ça. Donc il y a l'espoir pour les gens qui ont vécu n'importe quel traumatisme. Le Seigneur peut complètement enlever ça. Et te restaurer complètement.
Et l'intégration par rapport aux autres enfants, j'imagine, vu que vous étiez habitué à être juste avec tes frères, tes parents, dans des endroits quand même reculés. Là, tu arrives en Belgique où le contexte est quand même très différent. Comment ça se passe, l'intégration? Comment ça se passe même par rapport à ta foi? Parce que tu es très croyante, en fait, à ce moment-là et tout.
Absolument.
Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
Moi je suis quelqu'un qui analyse d'abord les autres, donc j'arrivais et puis j'analysais, je regardais comment les autres enfants se comportaient, et puis j'essayais de me fondre dans la masse aussi, et d'étudier le comportement des autres, et puis j'essayais de me fondre dans la masse. Sauf arrivé à mon adolescence, au moment où je cherchais vraiment Dieu, j'avais parfois ma Bible à l'école et je l'ouvrais carrément et je la lisais devant les autres sans vraiment penser ce qu'ils allaient penser de moi, parce que vraiment ma foi était ancrée et que je voulais la partager aux autres justement. Mais oui, c'est un peu comme ça que ça se passait. Vers mon enfance, j'observais surtout les autres pour faire imiter leur comportement, pour me fondre dans la masse et me sentir un peu acceptée. Mais vers mon adolescence, quand je me suis vraiment affermie dans ma foi, là j'apportais ma Bible à l'école et je lisais, je lisais aux élèves. D'ailleurs, il y en a avec qui on est en contact parce que j'aurais partagé la parole de Dieu.
Et est-ce que t'as été en contact après avec d'autres personnes qui ont vécu des parcours plus ou moins similaires au tien?
Oui.
Et est-ce qu'ils l'ont vécu de la même façon que toi?
Non. Il y en a qui ont vécu même des choses terribles, parce que ce que je raconte, c'est mon histoire. Et il y a des personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que mon histoire. Et j'ai rencontré des vies restaurées. J'ai rencontré des personnes qui ont carrément été aussi portées par Dieu et qui n'ont plus aucune blessure et qui ont vraiment guéri de leurs blessures. Mais j'ai rencontré d'autres personnes que la guerre a complètement détruites et qui sont soit dans la dépression, qui vivent dans l'anxiété et qui sont complètement, qui ont des vies un peu qui ont des vies détruites. Donc, mais à ces personnes-là, ce que moi je partage toujours, c'est que le Seigneur, en fait, peut transformer tout le malheur en bien, et que sa grâce est disponible pour elles, et que en se réfugiant en Dieu, en ne regardant pas leur passé, certes qui a été terrible, le Seigneur n'est pas l'auteur de ça. En fait, c'est pas Dieu qui est l'auteur de tous ces problèmes-là, mais le Seigneur, il a même promis que on va rencontrer des difficultés, mais qu'il sera avec nous. Donc je leur dis, le Seigneur est avec vous, il veut vous restaurer, il veut vous donner une vie meilleure en lui. Avec votre passé, il vous prend tel que vous êtes et il vous restaure. Il vous redonne complètement une autre pensée, une autre manière de voir les choses. Il y a l'espoir.
C'est ça.
Il y a l'espoir.
À quel moment c'est comme la paix, je respire, c'est bon, tout est, enfin, ça va bien et j'avance. À quel moment, est-ce qu'il y a un jour où c'est comme tu as senti que vraiment ton passé, tu as parlé des 3 jours de jeûne et prière, mais est-ce qu'il y a un moment où tu as senti que c'est bon, j'ai un avenir, tout est beau, tout est rose, etc. Est-ce que tu as senti ça après toutes les souffrances par lesquelles tu étais passée?
Comme tu l'as dit, les 3 jours de jeûne et prière ont vraiment été des jours clés, parce que là, mon esprit, ma mentalité a été transformée à ce moment-là. Mais sinon, quand je suis arrivée en Belgique jusqu'à aux 3 jours de jeûne et prière, c'était comme un processus de transformation, vraiment. Jusqu'au moment où, justement, j'ai compris que voilà, maintenant, ta maman, elle ne reviendra pas, c'est le deuil complet et que j'ai mis toutes les choses passées vraiment derrière moi et que maintenant je dois avancer. Mais c'est vraiment, c'était un processus. Et la fin, vraiment le moment qui a marqué la fin, c'est les trois jours de prière.
Ça a été déterminant.
Avec Obed, mon mari, et l'église, en fait.
Mm-hmm. Oui. Qui n'était pas ton mari à l'époque.
Non.
Obed, ils se sont rencontrés très jeunes.
Oui, oui, oui. Ils n'étaient quand même pas mariés.
On n'était pas mariés, non.
Et quand on préparait cette émission, du coup, je suis allée voir les chiffres. Et selon l'UNICEF, il y a 37 millions d'enfants dans le monde qui sont déplacés à cause de guerres, de conflits, ou c'est ça, pour diverses raisons. 37 millions, dont des centaines de milliers qui sont seuls, qui ont été séparés de leur famille. Et c'est sûr, on entend l'histoire de Jeanne, mais on se dit, bah, c'est 37 millions, en fait, de Jeanne qui errent dans le monde d'un endroit à l'autre, dont des centaines de milliers, et ça, ça fait mal au cœur, qui sont seuls. Oui. Et c'est sûr que bah, ces enfants qui sont seuls sont bah, déjà au niveau de l'éducation, tu l'as dit, t'es pas scolarisé, mais qui sont aussi des victimes bah, très faciles, des cibles très faciles pour le trafic humain, pour la violence, au niveau des soins, bah, il n'y a pas de soins. Non. Donc c'est des enfants qui sont non seulement dans la précarité, mais qui sont aussi en danger. Et tu dis, Dieu est le Dieu qui prend soin des orphelins.
Absolument.
Et bah, en fait, des orphelins, il y en a... Quelquefois, on n'en connaît pas dans notre milieu. Mais bah, il y a des centaines de milliers d'enfants, sachez-le, dans le monde qui errent seuls, qui n'ont plus ni père ni mère, ou en tout cas qui en ont été séparés pendant un temps, et qui sont livrés à eux-mêmes. Pas parce qu'ils ont été délinquants, pas parce qu'ils ont, ils ont tout abandonné, mais parce qu'ils ont été contraints de quitter un pays pour une raison ou pour une autre. Et bah, je crois que Dieu veut se révéler à eux.
Ouais.
Et puis, tu as été bénie, Jeanne, dans tout ce parcours, d'avoir un père qui a été un vrai pilier
Absolument.
Un vrai pilier de foi. Et bah, certains de ces enfants n'ont pas ces piliers, n'ont pas ces repères, mais ça n'empêche que Dieu veut se révéler à eux comme le Dieu, comme leur Dieu et comme leur père aussi.
Oui.
Et puis bah, qu'on puisse penser à eux dans nos prières, que cette émission soit aussi l'occasion bah, d'ouvrir notre cœur à des personnes qui sont chères au cœur de Dieu, en fait.
Oui.
Pour rappeler, bah, ils existent. Peut-être que moi, je ne les vois pas dans ma petite ville, mais ils existent, en fait, ces enfants. Ils sont importants pour le cœur de Dieu. Et puis, bah, de laisser notre cœur être touché, notamment dans la prière. Et puis, quand aussi j'entends le travail de ces missionnaires, quelquefois, on peut être un peu... découragé par rapport à l'ampleur et de tous les besoins. Mais tu vois, ce repas que vous avez reçu dans ce motel, c'est comme le repas de la joie, le repas de la bénédiction. Et tu te dis, bah, quelquefois, un repas, qu'est-ce que ça va faire? Bah, en fait, tu sais pas ce que ça bah, déjà, un repas, ça fait du bien, mais ça fait du bien à votre corps, mais ça fait tellement du bien à votre cœur, parce que ce repas-là, c'était la réponse, quoi, la réponse du Seigneur dans un moment critique et tragique. Donc, les faits de ce qu'on peut faire aussi, des services, des bonnes œuvres qu'on peut rendre. Un repas, ça peut changer la vie de quelqu'un.
Oui, complètement. Et toutes ces personnes qui ont semé dans ma vie, ça m'a vraiment donné envie d'aller, de faire la même chose. C'est comme ça que plus tard, on est devenu aussi famille d'accueil d'une petite, parce que j'avais vu tellement ces gens prendre soin de nous, nous aider, que ça donne ce cœur aussi de pouvoir aider. Et la petite action qu'on va poser pour soi-disant une seule vie, en fait, on ne connaît pas l'impact que ça peut avoir. Donc, ne minimisons pas, comme tu dis, une aide par-ci, une aide par-là. Ça peut transformer la vie de quelqu'un à jamais. Donc, j'en suis le résultat.
Et j'aimerais aussi, quand j'écoute ton histoire, j'aimerais aussi encourager les personnes qui vivent encore dans le passé à relâcher, en fait.
Tu vois,
c'est le travail que le Seigneur a produit à l'intérieur de toi, alors que tu es passé par 7 ans de jeûne. Il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et on doit renoncer aussi à des passés parfois douloureux pour accepter l'avenir que le Seigneur a à nous offrir. Et on peut prier pour toutes les personnes, justement. On a parlé de ces enfants et peut-être aussi ces personnes qui ont du mal avec leur passé. On peut s'accorder ensemble et Seigneur, vraiment, merci. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui rétablit, tu es le Dieu qui sait faire du bien, tu es le Dieu qui rachète du temps. Même lorsque les situations semblent compliquées, lorsque ça semble désespéré, tu es là et tu veilles d'une manière ou d'une autre. Oui. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour Jeanne, pour sa famille. Mmh. Merci pour toutes les personnes qui, comme elle, tu as secouru à un moment ou à un autre, Seigneur. Et nous croyons que ta main n'est pas trop courte. Ton bras est puissant. Mmh. Seigneur, merci parce qu'à travers le monde, là où il y a ces enfants qui souffrent, nous croyons que ton regard est posé sur chacun d'eux et que d'une manière ou d'une autre, comme tu l'as fait pour Jeanne, Seigneur, nous prions pour une intervention puissante. Nous prions pour des miracles dans ces vies. Nous prions, Seigneur, afin que tu touches des cœurs. Et Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui ressentent ce besoin de mission, qui ressentent ce besoin d'aider, ce besoin d'être des sources de bénédiction. Seigneur, je prie afin que ces ministères soient relâchés, que la peur puisse quitter ces personnes, que ces élans que tu as mis dans les cœurs, parce que tu as les yeux sur ces enfants, que ces élans puissent être relâchés, libérés, manifestés au nom de Jésus-Christ. Et je veux prier aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes qui, oui, regardent à leur passé. Et à cause du passé, elles sont dans des prisons encore aujourd'hui. Mmh. Seigneur, nous prions afin que les corps soient relâchés au nom puissant de Jésus-Christ. Que les corps soient relâchés au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous demandons le renoncement. Et si tu as un problème avec ton passé, tu peux renoncer maintenant. Dis à Jésus, je renonce à ce passé qui m'habite encore, ce passé qui m'empêche de regarder à mon avenir. Mmh. Oui, Seigneur, alors que les yeux se tourne vers toi. Tu es le Dieu qui a porté notre passé à la croix. Oui, Seigneur Jésus-Christ, on plaide ton sang sur ces personnes et on déclare que ces liens du passé sont brisés. Nous déclarons que tu rachètes du temps et nous proclamons un avenir. Nous proclamons une espérance dans la vie de toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Merci Jeanne d'être venue partager ton histoire. Et puis écoute, nous saluons ton papa qui est un vrai héros de la foi.
Salut papa.
Et ton histoire nous a bénis, mais son histoire nous a aussi bénis. Ouais. Et ça nous rappelle l'importance et le modèle qu'on est en tant que parents pour transmettre la foi, même dans les moments les plus terribles. Eh bien, ça n'empêche pas que avec ton cœur d'enfant, tu aies pu t'accrocher à Jésus. Et c'est vraiment très très beau. Alors merci à toi, Jeanne.
Merci à vous pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là.
Et on va se retrouver donc mercredi. Comme je vous l'ai dit, nous aurons encore une autre histoire inspirante. Alors, à mercredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.